Avec ce temps de rentrée du mois de septembre, j'aimerais vous proposer une nouvelle série sur un sujet qui nous concerne tous, puisque nous sommes là ce matin, et qui n'est pas abordé si souvent que ça, du moins pas dans le détail. Il s'agit du sujet des relations fraternelles. Comment vivre dans l'Église ou les relations fraternelles? Voilà l'intitulé de cette nouvelle série que nous commençons donc ce matin. Ce sujet des relations fraternelles ou des relations dans l'Église est un sujet qui est toujours d'actualité. C'est un sujet qui, au fil des siècles, ne s'est jamais démodé. En tout temps et en tout lieu, les chrétiens ont toujours eu besoin de se poser ces mêmes questions. Comment vivre dans l'Église ? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet ? Est-ce qu'on vit dans l'Église comme à la maison ? S'il y a des différences, quelles sont-elles ? Si cette réflexion est toujours d'actualité, et donc toujours pertinente, les temps particuliers que nous vivons avec la Covid-19 lui donnent une autre dimension. En effet, vous le savez comme moi, la vie de l'Église a été profondément affectée par le confinement, premièrement, et puis elle l'est aujourd'hui par le protocole sanitaire que nous devons respecter. Nous avons vécu l'Église différemment ces derniers mois, avec plus ou moins de bonheur. Et ces nouvelles formes données à la vie de l'Église ont nécessairement des répercussions sur notre communion fraternelle. Ainsi, ce sujet trouve une résonance particulière dans le contexte du moment où la communion fraternelle et ses manifestations se sont réduites, on pourrait dire, comme peau de chagrin, en grande partie à l'avant et à l'après-culte. Il ne reste pas grand-chose d'autre. Comment donc vivre dans l'Église dans la situation du moment ? Faut-il simplement patienter et attendre des jours meilleurs ? Faut-il en parallèle réfléchir à de nouvelles formes de communion, de vie d'Église ? Quelle que soit la réponse que nous apportons, que nous donnons à ces questions, la question générale du départ demeure, et c'est elle qui sera le fil rouge de notre série. Comment vivre dans l'Église ou les relations fraternelles? Après ces quelques mots d'introduction, j'aimerais poser quelques bases à notre réflexion. Ce sera notre deuxième point que je commencerai en définissant les relations fraternelles. En effet, de quoi parle-t-on au juste quand on parle de relations fraternelles, de communion fraternelle? Qui est concerné? Qui ne l'est pas? Beaucoup de questions de cet ordre-là. Parler de relations fraternelles, c'est parler de fraternité. C'est parler de relations entre des frères et des sœurs. C'est de cela dont nous parlons. Et c'est par l'œuvre de Jésus-Christ que cette fraternité existe dans l'Église. Quand nous parlons de relations fraternelles dans l'Église, nous ne parlons pas de fraternité en humanité. Cette fraternité en humanité qui unit tous les hommes et que nous retrouvons par exemple dans la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Nous parlons, quand nous parlons de relations fraternelles, d'une fraternité qui existe non en vertu du premier Adam, du premier homme qui a introduit l'humanité, mais en vertu du second Adam qui a créé une nouvelle humanité et une nouvelle fraternité. C'est en lui, par la foi que nous mettons en lui, que nous devenons frères et sœurs. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 26, l'apôtre Paul dit ceci, « Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Fils de Dieu en Jésus-Christ. Il y a donc une fraternité nouvelle pour toutes celles et ceux qui sont par la foi en Jésus-Christ. Et c'est bien évidemment de cette fraternité qu'il s'agit quand nous parlons de relations fraternelles dans l'Église. Ainsi, ceux qui acceptent Jésus par la foi comme leur Sauveur et Seigneur sont élevés au rang d'enfants de Dieu par la nouvelle naissance. L'apôtre Jean, par exemple, on n'a que l'embarras du choix hein, de textes dans le Nouveau Testament, mais l'apôtre Jean, au début de son évangile, chapitre 1, versets 12 et 13, écrit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il s'agit ici de la lumière, c'est-à-dire de Jésus, la lumière venant dans le monde, donc à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » La nouvelle naissance dont nous parlions. Ceux qui acceptent Jésus par la foi, qui l'acceptent comme leur Sauveur et leur Seigneur, deviennent donc membres de la famille de Dieu. Et le Nouveau Testament a un terme pour cela. L'apôtre Paul, dans plusieurs textes, dans plusieurs de ses lettres, parle de l'adoption. Galates 4, par exemple, versets 4 à 6. « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ça, c'est pour le lien avec la première partie du culte. Oui, Dieu nous élève en son Fils à la position d'enfant de Dieu. Dieu nous adopte dans sa famille, et c'est en vertu de cette adoption, et en vertu de cette adoption seule, que nous sommes réellement frères et sœurs dans la foi. Frères et sœurs en Christ dans la foi. Et comme le disait Onésime, par cette adoption, Dieu devient notre Père. Et nous pouvons lui dire « Abba ». Abba. Abba, ce n'est pas du français, c'est un mot araméen, effectivement, qu'on trouve dans le Nouveau Testament et qu'on trouve dans la bouche de Jésus. Ensuite, l'apôtre Paul reprend ce terme. C'est un terme que Jésus utilisait quand il priait, quand il s'adressait à son Père et que l'on peut traduire par « cher Père ». Cher Père. Jésus, par cette Dieu, par cette adoption, devient notre cher Père. Mais par cette adoption, Dieu n'est pas seulement, enfin, la seule chose qui change, ce n'est pas seulement que Dieu devient notre Père, mais Jésus devient notre frère. Après la résurrection, Jésus dira à Marie, près du tombeau, là, ceci, je lis, Jean chapitre 20, versets 16 et 17, Jésus lui dit « Marie », elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu ». Et votre Dieu. Oui, par la foi en Jésus qui a tout accompli pour le rendre possible, Dieu est devenu notre Père et Jésus notre frère. Et Paul écrira dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 29, qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Le premier-né d'un grand nombre de frères. Les relations nouvelles rendu possible par l'œuvre de Jésus-Christ constitue donc la fraternité spirituelle dont nous parlons quand nous parlons de relations fraternelles ou de communion fraternelle. Et ces relations sont les relations qui se vivent, qui doivent se vivre au sein de la famille de Dieu qu'est l'Église. Et c'est notre troisième point, l'Église ou la famille de Dieu. Qu'est-ce que l'Église ? L'Église, au sens précis du terme, c'est l'ensemble de celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus pour leur salut et que Dieu a adopté dans sa famille. C'est une des définitions que nous pouvons donner à l'Église. L'Église, c'est donc une famille spirituelle. C'est une nouvelle société dont Dieu, ou une nouvelle famille, dont Dieu est le Père et dont Jésus est le Frère. Et en vertu de cela, nous sommes tous au sein de cette famille, frères et sœurs en Christ. Et c'est donc dans l'Église que nous vivons ces relations nouvelles que Dieu a voulu. Des relations qui sont, pour l'heure, cependant, encore marquées par les limites de notre humanité. Des relations qui, pour l'heure, ne sont que les prémices de la vie que le Christ nous a acquise. En effet, ce qui sera un jour parfait dans la gloire, les relations fraternelles que nous vivrons dans la gloire n'ont rien à voir avec celles que nous pouvons vivre aujourd'hui. Ce qui sera parfait un jour dans la gloire est encore imparfait ici-bas. À tel point que nous pouvons être parfois tentés d'oublier une vérité importante au sujet de l'Église. C'est notre quatrième point. Pour notre bien. Une des raisons de l'existence de l'Église, je dis bien une des raisons de l'existence de l'Église, c'est notre bien. C'est notre édification spirituelle. Telle est la volonté de Dieu. Pour bien remplir sa mission dans le monde, l'Église ne doit pas premièrement sortir pour faire de l'évangélisation. L'Église doit premièrement prendre soin des siens. Un chrétien qui témoigne, c'est un chrétien qui est affermi dans la foi. Et cet affermissement, c'est entre autres la mission de l'Église. L'Église est donc le lieu privilégié, voulu par Dieu, pour notre croissance spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle il faut tout particulièrement veiller aux relations dans l'Église. Les enjeux sont importants. Ce n'est pas simplement une question de relations, c'est bien plus que cela. Et quand nous faisons cela, quand nous veillons aux relations dans l'Église, ce n'est pas du nombrilisme que nous faisons, ce n'est pas de l'égoïsme non plus, c'est simplement du bon sens et de la sagesse. Parce qu'avant de pouvoir donner, il faut avoir reçu. Parce que pour que tous connaissent que nous sommes disciples du Seigneur, il faut que nous ayons de l'amour les uns pour les autres, comme le dit Jésus dans Jean 13, au verset 35. Nous reviendrons plus tard à ce verset. Qu'ont fait les premiers chrétiens après la Pentecôte ? Vous vous souvenez ? Ils ont fait une campagne d'évangélisation. Non, ce n'est pas ça. Acte 2, verset 42, « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Ils étaient assidus à tout simplement vivre l'Église. Vivre dans l'Église les uns avec les autres. Chers amis, Dieu a voulu l'Église pour notre bien. Dieu aurait très bien pu décider que la foi allait se vivre chacun dans son coin. Ça aurait pu être la volonté de Dieu. que nous vivions notre foi indépendamment les uns des autres. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a pensé, il a voulu et il a créé l'Église pour que son peuple s'y fasse du bien. Pour sa gloire, certes, pour beaucoup d'autres choses, mais aussi et tout simplement pour notre bien, pour notre croissance, notre épanouissement, notre perfectionnement, nous pourrions dire, résumer tout cela, pour notre sanctification. Est-ce que Dieu s'est trompé ? Est-ce que nous pourrions parvenir à tout cela sans l'Église ? Si nous pouvons parvenir à tout cela sans l'Église, c'est que Dieu s'est trompé. Parce que si vous relisez le Nouveau Testament, vous verrez que tout cela, ça vient par l'Église, en grande partie. Je ne crois pas que Dieu se soit trompé. Et c'est la raison pour laquelle il me paraît essentiel que nous comprenions ces choses et que nous adhérions pleinement au projet de Dieu pour nous, qui s'appelle l'Église. Mais voilà, il se peut que nous ayons été un jour échaudés, c'est possible. Nous l'avons peut-être même tous été à un moment ou à un autre. Il se peut qu'à un moment donné, nous ayons fait une ou plusieurs expériences négatives dans une église, pas forcément ici, peut-être ici. Si c'est le cas, nous devons veiller à ne pas, comme on le dit un peu populairement, nous devons veiller à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous devons être vigilants aux amalgames. Et nous devons bien faire la distinction entre le projet de Dieu et ce que nous en faisons parfois ou ce que d'autres en font parfois. Et quelles que soient les expériences douloureuses que nous avons vécues dans une église un jour, ne laissons pas l'arbre nous cacher la forêt. L'Église qui est pour l'instant pleine d'imperfections a été voulue par Dieu, nous l'avons déjà dit, pour notre bien, pour notre instruction, pour notre sanctification. Et tout cela se réalise par l'enseignement dans l'Église, mais aussi par nos relations fraternelles. Pensez un instant au joli galet au bord de la rivière ou dans la rivière, bien arrondi, bien poli, comment est-il devenu ainsi? Tout simplement par le frottement avec d'autres galets, le temps aidant, avec d'autres pierres, etc. Par contre, la pierre isolée sur le côté, qui n'a jamais été dans ce mouvement de frottement avec d'autres, va conserver toutes ses arêtes vives, toutes ses arêtes coupantes, acérées. Dieu a voulu que nos caractères soient formés, transformés, entre autres, par la communion fraternelle. Dieu a voulu, c'est sa volonté, que nous ayons pour cela besoin les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons, pour lesquels Dieu a voulu et créé l'Église. Chers amis, je ne sais pas ce que vous pensez, mais peut-être que vous devez, et je l'espère, cesser une fois pour toutes de rechercher l'Église parfaite. Cessez de la rechercher parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que l'Église est composée de pécheurs, pardonnés certes, au bénéfice de la grâce de Dieu, mais pécheurs encore. Et l'Église parfaite n'existe pas parce que les frottements qui sont occasionnés par nos relations, ce n'est pas toujours pénible, hein, bien sûr, sont les moyens ou des moyens voulus par Dieu pour notre sanctification, pour nous former et nous transformer à l'image du Christ. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans le Nouveau Testament, dans les épîtres du Nouveau Testament. je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le dis là, c'est le fait qu'il n'y a aucun, je dis bien aucun, alors si jamais quelqu'un en trouve un, dites-le moi, mais à ma connaissance, il n'y a aucun commandement direct dans les épîtres qui appelle les chrétiens à évangéliser. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé. Rien. On en a des commandements dans les épîtres. Des dizaines et des dizaines, des centaines, mais pas un seul, pas un, qui nous invite à évangéliser. C'est frappant. Par contre, il y a des dizaines et des dizaines, plusieurs dizaines de commandements qui concernent la communion fraternelle. Peut-être parce que, avant le discours qui interpelle, celui que nous allons porter à l'extérieur de l'Église, il faut la vie qui interpelle. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. C'est par l'Église que Dieu a voulu que nous parvenions à la maturité spirituelle. L'apôtre Paul parle de parvenir jusqu'à la stature parfaite du Christ. Ça, c'est un sacré programme. Et regardez ou écoutez et lisez avec moi ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens. C'est un texte tellement important, il est un tout petit peu long, mais c'est tellement important pour comprendre le rôle de l'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 16. C'est lui, le Christ, qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres. Voilà pour les dons d'enseignement essentiellement que Dieu donne à l'Église. Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Pourquoi les dons décrits au verset 11, pourquoi ces dons ont-ils été donnés à l'Église? Je suis conscient qu'il s'agit ici essentiellement d'enseignement, mais pas que. Verset 12, pour la formation des saints, pour l'œuvre du ministère. Verset 12, pour la construction du corps de Christ. Verset 13, pour que nous parvenions tous, à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, pour que nous ne soyons plus, je résume, entraînés à tout vent de doctrine. Verset 15, pour que nous croissions à tous égards en Christ. Et tout cela, dans quel terreau, dans quel contexte? Celui des relations fraternelles. Verset 15, en disant la vérité dans l'amour. Verset 16, en se construisant dans l'amour. Tout ça, c'est très beau. Mais il y a un mais. Ce tableau idyllique est gâché par un trouble fait. Un trouble fait nommé la chair. C'est notre cinquième point. La chair, vous le savez, c'est notre nature pécheresse. C'est tout ce qui, en nous, nous détourne ou cherche à nous détourner constamment de la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, dit Paul, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. La chair, c'est notre héritage en Adam. Et c'est donc le lot de toute l'humanité. Et les chrétiens ne font pas exception à cette règle. Et les chrétiens ne sont pas débarrassés de la chair au moment de leur conversion. Ça n'existe pas. À la conversion, nous recevons bien une nouvelle nature, celle de l'Esprit de Dieu. Mais nous conservons le vieil homme, cette ancienne nature, la chair, qui reste en nous, qui demeure jusqu'à ce que nous quittions ce corps et qui ne s'avoue jamais vaincu. Ainsi, bien que nous ayons tout pleinement en Christ, des textes l'affirment, nous devons encore composer avec la chair dans notre vie spirituelle. Ainsi, bien que nous fassions par la foi partie de la famille de Dieu, nous devons composer avec la chair dans nos relations fraternelles, dans l'Église. Et cela sera ainsi jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Et si c'est avant qu'il nous rappelle à lui, jusqu'à ce qu'il revienne pour établir pleinement et définitivement son royaume. Alors, et seulement alors, les choses anciennes, les premières choses, celles qui constituent notre humanité déchue, ces choses-là disparaîtront. Et toutes choses deviendront nouvelles. Alors, la chair n'exercera plus son influence néfaste. Et nous pourrons jouir pleinement de tout ce que le Christ a acquis pour nous par sa victoire. Mais pour l'heure, nous devons encore composer dans notre vie personnelle et dans nos relations fraternelles avec la présence de la chair. La chair dont les œuvres, dit l'apôtre Paul, sont contraires à l'Esprit de Dieu qui est en nous et à son fruit en nous. Contraires à la vie de l'Esprit que nous avons reçue au moment de cette nouvelle naissance, et dans laquelle nous nous sommes appelés à vivre jour après jour. Vous savez que c'est dans Galates 5 que l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair, de ce que la chair génère. Et ce qui est frappant dans cette liste qui n'est pas exhaustive parce qu'elle se termine par « et toutes ces choses et autres choses semblables », donc on peut en rajouter, mais ce qui est frappant dans cette liste, c'est la place des œuvres qui ont un impact direct sur les relations en général et sur les relations fraternelles en particulier. Je dis plutôt, Galates 5, versets 16 à 21, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, tout ça, ça touche aux relations. Hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, tout ça, ça touche aux relations. Les 4/5 des œuvres de la chair, c'est frappant. Et voilà pourquoi, si nous en doutions encore, les relations humaines et donc les relations fraternelles peuvent être si compliquées. Parce que la chair a un potentiel destructeur de relations qui est immense. Les œuvres de la chair détruisent les relations et les relations fraternelles. Et donc les relations fraternelles ou les relations en général demandent de notre part une extrême vigilance et bien évidemment des efforts. une volonté déterminée à ne pas laisser la chair prendre le dessus et nous dicter sa loi et nous imposer ses œuvres, le choix régulier, journalier, de vivre, de marcher par l'esprit et non par la chair. Je dis marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. C'est ainsi que nous avons la victoire, en marchant par l'esprit, en obéissant à Dieu, en faisant sa volonté, même quand elle nous coûte. C'est ainsi que nous avons la victoire. Et dans nos relations en particulier. Et quand nous obéissons à Dieu, quand nous marchons par l'Esprit, alors nos relations ne sont pas caractérisées par ces œuvres de la chair, mais caractérisées par le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance dans le désordre, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, et j'ai oublié la patience. Que des qualités qui favorisent les relations. C'est impressionnant. Ce fruit de l'esprit, les 9 parties qui composent ce fruit de l'esprit, c'est cela qui donne les relations paisibles, bienfaisantes dans l'Église. Non, les relations fraternelles ne se font pas toutes seules, parce que la chair en nous a des désirs contraires à l'esprit. La chair n'aime pas la paix, elle n'aime pas la douceur, elle n'aime pas la patience, elle n'aime pas la maîtrise de soi, elle n'aime pas la bonté. La chair est égoïste, la chair ne pense qu'à elle. La chair marche sur les pieds des autres et nous pourrions continuer ainsi. Cependant, il ne faut pas trouver dans ce constat une raison de baisser les bras parce que la marche paraît bien haute. Il ne faut pas trouver dans ce constat une légitimation d'un certain fatalisme en la matière. Ah ben il y a la chair de toute façon, donc ma foi c'est pas parfait, donc, mais il y a la chair, donc on fait, voyez ce que je veux dire? Pourtant si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est que nous sommes capables de le faire. Dieu n'attend pas de nous l'impossible. Il n'attend pas de nous la perfection. Il attend de nous que nous fassions bien évidemment de notre mieux et que nous tendions vers la perfection. Et pour que nous puissions tendre vers cet idéal qu'il nous propose, il ne nous a pas laissés démunis. Au contraire, il nous a donné son esprit pour que nous puissions marcher par l'esprit. Il nous a donné sa parole pour que nous puissions vivre de cette parole et entrer dans la volonté de Dieu pour notre vie et pour notre vie d'Église. C'est en obéissant à la parole que nous marchons par l'Esprit et que nous vivons des relations fraternelles telles que Dieu le désire. Oui, c'est en obéissant à la parole de Dieu, en la prenant au sérieux, en l'appliquant à nos relations, que nous vivons des relations dans la volonté de Dieu. Et il se trouve que le Nouveau Testament a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les relations fraternelles. D'où l'idée de cette série. Et en particulier, beaucoup de choses à dire au travers d'un petit pronom personnel, même pronom réciproque plutôt, dans le texte grec qui est traduit dans nos Bibles en français généralement par les uns les autres. Parfois c'est traduit par réciproquement ou mutuellement, mais c'est généralement les uns les autres. Et c'est notre 6e et dernier point. En fait, cette expression les uns les autres est très fréquente dans le Nouveau Testament. On la trouve une centaine de fois, à quelques fois près, c'est une centaine de fois. Dans la moitié des cas, c'est employé dans un récit. Par exemple, ils se dirent les uns aux autres, allons de l'autre côté du lac, ou quelque chose comme ça. Et puis, dans l'autre moitié des cas, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire une cinquantaine de textes, nous avons ce pronom réciproque qui est accompagné d'un verbe à l'impératif. Et ça donne des exhortations ou des commandements qui concernent la communion fraternelle, les relations fraternelles. Le plus courant, c'est bien évidemment « aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Et puis, c'est décliné, nous allons le voir tout au long de cette série, et je vous passerai quelques diapos pour terminer, pour que vous ayez l'ensemble de ces textes. Accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, etc. Donc nous avons dans le Nouveau Testament une cinquantaine d'impératifs qui concernent les relations fraternelles dans l'Église et qui nous disent ce que Dieu demande. Ce n'est pas juste un souhait de Dieu, c'est une volonté exprimée de Dieu. Ce que Dieu demande pour que nos relations mutuelles soient conformes à sa volonté. Et ces impératifs, ces exhortations constituent un puissant antidote aux ferments de division qui peuvent exister dans l'Église, aux ferments des œuvres de la chair qui existent en chacun de nous. J'avais un jour fait une étude biblique sur ce sujet et j'avais fait un classement de toutes ces exhortations du Nouveau Testament qui utilisent donc cette expression « les uns les autres ». Comme j'ai dit qu'il y en avait une cinquantaine, mais comme on retrouve certains verbes plusieurs fois, en réalité, il y en a 28 différentes. Hein, « aimez-vous les uns les autres », ça revient une bonne dizaine de fois, et puis voilà. Donc, on a en tout 28 verbes différents, et ces 28 verbes, je les avais regroupés par affinité, et ça a donné, alors je ne me souviens plus si je m'étais sans doute inspiré de quelque chose que j'avais lu, mais ça a donné 4 groupes de 7. On aime bien le chiffre 7, hein, c'est assez symbolique. 4 groupes de 7, alors je les projette, je ne développe pas, mais je les lis simplement. Un premier groupe qu'on pourrait classer sous les 7 exigences d'ordre positif pour favoriser l'entente et la compréhension. Saluez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, soyez bons les uns envers les autres, supportez-vous les uns les autres, confessez vos péchés les uns aux autres, pardonnez-vous réciproquement, soumettez-vous les uns aux autres. Cette exigence d'ordre positif pour favoriser l'entente et la compréhension. Cette exigence d'ordre négatif pour éviter de nuire. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns aux autres, ne parlez pas mal les uns des autres, ne vous plaignez pas les uns des autres, ne vous portez pas envie les uns aux autres, ne vous provoquez pas les uns les autres, ne vous mordez pas. Il y a une espèce de crescendo, hein. Ne vous mordez pas les uns les autres. Ce n'est pas ce qui se passait dans cette église à laquelle Paul écrit cela, mais apparemment la chair avait une certaine importance. Et puis un troisième groupe, cette exigence en rapport avec la croissance mutuelle. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, veillez les uns sur les autres, exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres, entretenez-vous les uns les autres par des hymnes, des cantiques, enfin, vous connaissez le texte, et puis ayez soin les uns des autres. Et puis un dernier texte. Cette exigence en rapport avec un service mutuel. Soyez les serviteurs les uns des autres, priez les uns pour les autres, consolez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, mettez au service des autres le don reçu et lavez-vous les pieds les uns les autres. Donc la série va se terminer par cette mise en pratique, hein, de cette dernière parole. Mes amis, quel programme ! Quel programme ! Quelle série en perspective ! Alors, il n'y aura pas 28 chapitres à cette série, hein, je ne sais pas exactement lesquels je choisirai, mais certainement 2 ou 3 dans chaque groupe, et ça nous devrait nous aider à progresser dans ce domaine. Que faire contre la tendance naturelle de la chair, cette tendance naturelle à rendre les relations compliquées? La parole de Dieu nous propose une feuille de route. Une feuille de route, et cette feuille de route, ce sont ces 28 exhortations que nous venons de lire et que la parole nous donne pour que nous puissions vivre dans l'Église en particulier, tel que Dieu le veut, pour que nous puissions grandir spirituellement et le faire les uns avec les autres, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, parce que ces 28 exigences de l'amour, de la communion fraternelle, elles se résument tous par le commandement « aimez-vous les uns les autres ». Si on doit dire « c'est quoi aimez-vous les uns les autres ?» Eh bien c'est « soyez les serviteurs, priez, consolez ben, ». C'est les 28 exigences. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Et on revient à ce texte auquel j'ai fait allusion sans le projeter à un moment donné, ce texte qui nous dit que nous devons nous aimer comme Jésus nous a aimés. Jean 13, versets 34 et 35, je vous donne un commandement nouveau. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Mes amis, tous ne savent pas que nous sommes les disciples de Jésus en allant faire de l'évangélisation. C'est en nous aimant les uns les autres. Parce que ça finit par se savoir. Et c'est beaucoup plus puissant que des paroles que nous pouvons apporter et qui sont parfois contredites par la vie que nous menons. C'est exigeant, ce texte est bien exigeant, comme je vous ai aimé, comme Jésus nous a aimés. Mais je suis persuadé que Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. C'est ce que je disais un peu plus tôt, s'il nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il veut aussi nous donner les moyens de l'accomplir. C'est exigeant et nous devons veiller tout particulièrement à la tentation des raccourcis, à la tentation des solutions de facilité. Je vais terminer avec juste quelques exemples, c'est loin d'être exhaustif, et j'y reviendrai sans doute dans la série, mais on peut trouver toutes sortes de raccourcis, parce que c'est exigeant. Alors, c'est la nature humaine, hein, on trouve des solutions de facilité. Quand on n'est pas prêt à soumettre nos cœurs à la parole de Dieu, à l'action de l'Esprit en nous, alors on trouve d'autres moyens pour essayer de parvenir à vivre cette feuille de route. Ainsi, par exemple, il arrive que des chrétiens qui se croisent tous les dimanches au culte ne se parlent pas, ne se parlent plus, par exemple, après un différend, quel qu'il soit, ils ne se parlent plus, alors qu'il suffirait d'appliquer le remède de la parole de Dieu. On s'explique, on se repent, on se pardonne. C'est simple sur le papier. Il arrive aussi que des chrétiens, alors on parle là de cas extrêmes, mais quand ça devient vraiment compliqué, alors on quitte l'Église, c'est beaucoup plus simple que de régler les relations. Au bout d'un moment, c'est invivable, on va voir ailleurs. Plutôt que de régler ce qui doit l'être. Ça, ce sont des solutions de facilité. Il peut y avoir des raisons légitimes de quitter une église. Mais si nous la quittons parce que nous ne voulons pas régler un différend avec un frère ou une sœur, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il arrive encore que la solution de facilité, ce soit tout simplement d'assurer le service minimum, c'est-à-dire je ne m'implique pas dans la vie de l'église, comme ça je ne me frotte pas aux autres. Il n'y a pas de problème, je viens, je prends ce que je peux, je m'en vais, ni vu ni connu. Et puis, dernier exemple, mais là, je le dis encore, on pourrait trouver bien d'autres exemples. Il peut arriver qu'un chrétien choisisse, et la période que nous vivons me semble tout à fait propice à cela. Et je ne serais pas surpris que cette forme-là de vie d'église se développe. Il peut arriver qu'un chrétien choisisse de vivre la vie d'église par écran interposé. On l'a un peu fait pendant le confinement, on a été un peu plus sur Internet pour voir ce qui se faisait à droite à gauche et on a trouvé des choses intéressantes. Mais pourquoi je vais aller à l'église pour devoir supporter un tel et je reste à la maison sur mon canapé, j'ai mon café, mon thé. Quand ça ne me plaît plus, je zappe, j'éteins, je passe à autre chose. Et je crains que beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens dans le monde en soient aujourd'hui à vivre l'église ainsi. Mais ce n'est plus l'église. Et ce n'est pas ainsi que pourront se réaliser les bienfaits de la communion fraternelle tels que nous les avons évoqués. Il y a donc des solutions de facilité auxquelles nous devons être vigilants et que nous pouvons être parfois tentés d'emprunter. Mais la vie d'église qui en découle, quand nous acceptons ces solutions de facilité, la vie d'église qui en découle est tout sauf celle que Dieu désire pour nous. C'est tout sauf celle que Dieu appelle chacun de ses enfants à vivre. Et c'est tout sauf la vie d'église par laquelle Dieu veut nous bénir et nous faire grandir en lui et les uns avec les autres. Et tout cela, chers frères et sœurs, nous allons le découvrir tout au long de cette nouvelle série sur les relations fraternelles. J'en dis pas plus pour ce matin. Que le Seigneur bénisse tous ces rappels dans nos cœurs et toute cette série pour notre bien et notre bien les uns avec les autres. Amen.